It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ça va faire 50 ans demain, l'homme qui posait les pieds sur la Lune pour la première fois. Et il y a tout un volet marketing autour de la Lune. On en parle aujourd'hui, comme promis, avec notre spécialiste Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa. Salut Luc!
Bonjour Louis-Philippe.
Alors, ça fait 50 ans, puis c'est évidemment, on a tous grandi avec ça, on a tous entendu des histoires, même les histoires de gens qui pensent que c'est jamais arrivé. C'est un sujet incroyable pour un professeur de marketing comme toi.
Oui, et c'est assurément la plus grande opération de relations publiques de tous les temps, je m'explique. Un, à partir du moment où les Américains vont mettre les pieds sur la Lune, il n'y a plus personne d'autre qui va y retourner, n'est-ce pas? Les Russes qui sont pas très loin d'être capables, ils vont décider que, bon, ben si on est les deuxièmes, on sera toujours les deuxièmes. Ça sera pas bon pour les relations publiques. Au moment où on se parle, qui annonce mettre éventuellement les pieds sur Mars? Les Chinois. Alors, tout ça a permis d'asseoir la supériorité technologique des Américains sur le reste du monde. Et c'est pour ça que c'est un événement qui est pas négligeable, qui a impliqué au-delà de 400 000 personnes qui, de près ou loin, ont travaillé là-dessus. Et ça a coûté, à l'époque, 23 milliards de dollars.
À l'époque?
À l'époque.
Donc,
en dollars actuels, on parle de 172 milliards de dollars. Évidemment, il y a quelqu'un qui a payé. C'est les électeurs américains. C'est les Américains qui ont payé tout ça. Il fallait les convaincre de mettre des sous là-dedans, d'aller mettre un pied sur la Lune. Et ça, ça s'appelle, dans un département de communication à l'Université d'Ottawa, ça s'appelle des relations publiques.
Ben oui, puis imagine, dans un pays où il n'y a pas de système de santé universel, là, on a mis autant d'argent pour un concours de gros bras contre les Russes, pour dire qu'on était les premiers à aller sur la Lune. Et pendant ce temps-là, il y a plein d'Américains qui meurent parce qu'ils sont pas capables de se payer des soins de santé. C'est incroyable quand on y pense.
Et parce qu'aussi, on avait constaté que les Russes étaient très en avance. Puis là, il faut faire un effort qui est colossal, mais il faut monter dans la machine à voyager dans le temps. Puis se rappeler que dans les années 60, on se dit, si jamais ils sont capables d'aller sur la Lune avant nous, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire autre? Alors, il y avait toute cette crainte-là là, qui a alimenté beaucoup cette course-là vers la Lune. Alors, qu'est-ce que ça prend en relations publiques pour faire une bonne opération? Faisons-le comme si on était en train de réfléchir à tout ça. Un, ça prend une promesse.
Oui.
Ça prend quelqu'un qui dit, on va le faire. Kennedy, tu te souviens?
Oui.
Une déclaration célèbre où il dit, je mets au défi, avant la fin de la décennie, de mettre les pieds sur la Lune. Alors, ça prend ça. Ça, c'est ton porte-parole. Ça te prend un vendeur, un conteur. Encore là, en marketing, on appelle ça du storytelling. C'est qui va nous raconter l'histoire? Puis on va la trouver tellement bonne qu'on va dire, ben, il faut y aller. C'est vrai que ça serait vraiment bon. Et c'est là où l'histoire de la Lune devient fascinante sur le plan des relations publiques. Ce gars-là qui va faire ce travail-là, c'est un Allemand. En fait, c'est quelqu'un d'origine allemande, Werner von Braun, qui, dans une autre vie, est un nazi. Et qui a été capturé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est amené aux États-Unis, qui travaillait sur les fameux V2, les fusées qu'on lançait vers Londres, et lui qui avait une expertise extraordinaire sur le plan des fusées. Je vais passer très vite là-dessus, mais tu devines qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les Russes et les Américains veulent l'attraper en premier, hein? Parce que c'est la personne qui est capable de le faire, ça. Autre chose, qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend un réseau de télévision, ça te prend une émission. Faut inviter cette personne-là qui va nous faire rêver à la Lune. Et qui va faire ça? C'est Disney. Et c'est Disney qui va créer éventuellement des parcs d'amusement avec des portions Futureland,
ben oui.
Hein, la Terre du futur.
Ben oui.
L'autre truc, on est toujours dans les relations publiques puis dans les communications, le marketing, des médias. Parce que dans le temps, ce qu'on s'aperçoit très vite, c'est que chaque fois qu'on va dans l'espace, parce qu'avant d'aller sur la Lune, on devine qu'il faut aller se promener une couple de fois dans l'espace, hein, pour essayer de voir on est-tu capable de faire ça. Très vite, on comprend que si c'est télédiffusé en direct, les gens vont capoter, ils vont triper. Si c'est pas présenté, les Russes présentaient jamais ça à la télévision, ça va devenir une vue de l'esprit. Alors, sur ce plan-là, là, sur le plan des relations publiques, il y a une approche qui est complètement aux antipodes, les Russes et les Américains.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vont faire les Américains?
Les Américains avaient compris que si on veut que les gens embarquent et que les gens y croient, ben, faut qu'on présente ça live.
Exact. Et idéalement, éventuellement, en couleur. Alors, qu'est-ce que les autorités américaines vont faire? Ils vont approcher RCA et Westinghouse et ils vont leur dire, on fait une entente avec vous. Vous allez pouvoir dire qu'on a travaillé avec vous. Alors, ça va sur le plan encore là de l'image, ça va être extraordinaire. Mais il faut trouver une manière de retransmettre ça en direct. Et ceux qui ont aussi une certaine mémoire se souviendront qu'en 72, lors de la série du siècle, c'est parmi les premières émissions live via satellite. Parce qu'autrefois, chaque fois qu'on voyait quelque chose en direct à distance, c'était par l'entremise du satellite et on le disait à la télévision. Aujourd'hui, évidemment, on ne mentionne plus ça, c'est trop commun, mais dans le temps, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors, RCA et Westinghouse vont travailler très fort là-dessus, puis vont réussir à trouver une manière de retransmettre ça en direct, ce qui est important parce que le premier homme sur la Lune, 94% de l'Amérique du Nord va regarder l'événement en direct. 94%. Super Bowl est loin derrière. Là.
C'est exceptionnel. Chiffres, là, je veux dire, on verra jamais ça. Là.
On reverra jamais ça. Non, on verra effectivement jamais ça. Et le phénomène est tellement important qu'il y a des gens sérieux aujourd'hui qui disent que à travers le temps pour aller sur la Lune, il y a tellement eu d'échecs que si on était à l'époque des médias sociaux, la NASA aurait abandonné. Parce que les gens auraient dit, vous êtes des pas bons, vous êtes ridicules. Il n'y a personne qui aurait réussi à traverser ça avec le temps. Deux autres petites choses, Louis-Philippe, c'est que ça prend aussi, il faut faire des astronautes des vedettes. Et là, qu'est-ce qu'on a comme idée? On engage un publicitaire qui a aussi fait des relations publiques et lui va entrer en contact avec les différents médias et il va signer une entente d'exclusivité avec le magazine Life. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque mois, on va présenter une famille d'astronautes. On va présenter un astronaute. On va faire une douzaine de couvertures à travers le temps. Puis, en échange, les astronautes sont payés. Mais ils ne peuvent pas parler aux autres médias.
C'est exclusif.
C'est exclusif. Et quand va venir le temps de renouveler l'entente, le New York Times va faire une sortie publique en disant « C'est dégueulasse que les astronautes puissent parler à Life, faire des photos avec Life, présenter leurs conjoints, leurs chiens, leurs enfants au magazine Life. Mais nous, on ne peut jamais faire de topo sur les astronautes. »
Ben oui, on ne pourrait pas voir ça aujourd'hui parce qu'ils sont payés par l'État. Donc, ils ne pourraient pas faire une entente d'exclusivité comme ça avec un seul média.
Oui, mais là, regarde-moi bien venir. Évidemment, la NASA réalise qu'ils ont un problème, exactement ce que tu viens de soulever. Et là, ils décident de sortir publiquement et de préciser quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est que lorsqu'on envoie les premiers astronautes sur la Lune et qu'on va voir des compagnies d'assurance en disant « Est-ce que vous pourriez assurer M. X? » La compagnie dit quoi? Elle dit « Non, jamais
merci.
On va assurer un astronaute. »
Le risque est trop grand.
Le risque est trop grand. Alors, qu'est-ce que la NASA va dire pour justifier cette entente d'exclusivité-là? C'est les astronautes sont payés quelques milliers de dollars par année. Si jamais ils meurent, imaginez les familles, comment ils vont manger. Et ça, dans l'opinion publique, les gens vont dire, sais-tu, le New York Times sont vraiment pas gentils. Aucune sensibilité humaine. C'est vrai que dans le fond, ces gars-là prennent une chance extraordinaire. Et je dis gars parce qu'à l'époque, c'est des hommes, je le précise. Aujourd'hui, on dirait autre chose, mais dans le temps, c'était ça. Alors, sur ce plan-là, c'est une entente qui est assez unique. Aujourd'hui, ça existe partout. Ça s'appelle la publicité « native ». Sur Internet, c'est du publi-reportage, mais dans le temps, ça prend la forme d'un article de journaux. Et dernier élément pour vendre la Lune, Louis-Philippe, comme quoi te résume tout ça très rapidement, c'est la publicité classique. Chaque fois que tu approches une entreprise, tu lui dis, ben, on est l'État, c'est une aventure qui a coûté ou qui va coûter éventuellement des dizaines de milliards, on le disait au début de l'entrevue, 23 milliards en dollars de l'époque, donc 172 en milliards de dollars d'aujourd'hui. On peut-être pourra pas vous payer, mais peut-être que vous pourriez avoir une entente avec nous, puis vous allez nous donner des sous, puis en échange, ben vous pourrez faire de la publicité. Mais là où l'entente est particulière, je te donne un exemple parmi tant d'autres, et celle-là aussi, je m'en souviens, Tang, les sachets de poudre sucrée, de jus, de jus Tang.
Oh oui, ben oui,
orange.
Oui. On était là avec sucré, ça. Sucré, tu dis, toi?
Ça réveillait, là.
Je pense qu'aujourd'hui, tu donnes ça à tes enfants, puis la DPJ débarque à la maison.
et dans le temps, ben aussi curieux que ça puisse paraître, qu'est-ce que les astronautes ont dans la, astronef, la
capsule, oui.
La capsule, exact. Ils ont
des sachets de Tang.
De poudre Tang.
Placement de produit.
Oui, alors voici comment l'entente est particulière. C'est, vous pouvez dans la publicité dire qu'on a mis ça dans la fusée, mais vous pouvez pas dire dans la publicité que les astronautes ont utilisé le produit. Un peu comme les pneus du véhicule lunaire, c'est une marque connue. Un peu la montre, c'est une marque de montre connue. Et les gars ont besoin de l'heure, là, même s'ils sont sur la Lune, il faut qu'ils suivent tout ça. Alors, c'est comme ça qu'ils vont réussir à aller chercher les derniers dollars avec des ententes très particulières. Vous pouvez dire que c'est dans la fusée.
Mais on s'entend qu'ils n'ont jamais bu de Tang dans la fusée, mais...
Mais ce qui est, en tout cas, assez unique, c'est que pour toute une génération de gamins, ça devait être quelque chose, parce que Tang, ça avait été dans l'espace.
Mais ça doit avoir marché, ça doit être pour ça que j'ai bu autant de Tang dans ma jeunesse.
Oui, ça a très, très bien marché. Celle de Tang est probablement le plus bel exemple. C'est une campagne que tu peux retrouver. Là.
C'est peut-être pour ça que j'ai encore des petites rondeurs aujourd'hui, Luc. Là, ouais. Les... puis l'autre élément qui rend encore tout ça plus captivant, c'est le fait qu'il y a un adversaire identifié, c'est-à-dire la Russie.
Oui, et ça aussi, c'est pas négligeable. Puis ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les Russes étaient très, très près. Et quelques semaines avant, ils ont eu un problème avec une fusée. Ils avaient modifié le type de carburant qu'ils utilisaient. Et sur la rampe de lancement, la fusée a explosé. Comme on est à l'époque de la guerre froide, on ne l'apprend pas ici, mais la CIA le sait qu'il s'est passé quelque chose. Et là, ce qu'on sait à partir d'Apollo 10 et Apollo 11, il va s'écouler à peu près 2 mois entre les deux, c'est que voici notre fenêtre. Il y a beaucoup de chances qu'on ne soit pas capable de se rendre, mais si on ne le fait pas là, les Russes sont vraiment pas loin. Et les Russes avaient envoyé le premier satellite,
ouais.
Soyuz. Ils avaient envoyé les premiers êtres vivants dans l'espace. Un paquet de trucs. Et là, ils étaient comme très, très près. Alors, sur le plan de la réputation, sur le plan des relations publiques, dirait un prof de communication, ils étaient très, très près.
Alors, les États-Unis sont passés en mode accéléré. Et ça a fonctionné.
Oui. Et la version, si tu la cherches canadienne de ça avec les Russes, c'est là, OK. Nous, c'était sur la glace. C'était un peu moins difficile. Ça pourrait être moins à danger. Mais si tu cherches notre événement à nous, là, notre Apollo 11, c'est la série du siècle 72.
Ben, je veux dire que c'était assez dangereux aussi quand on regarde le style de hockey qui s'est joué dans cette série-là.
Oui, c'était. C'est drôle que tu en parles. Et je lève la main et j'annonce mes couleurs. J'ai regardé une couple de matchs récemment qui sont disponibles sur YouTube, soit dit en passant. Et effectivement, je suis obligé de te dire que on donnait beaucoup de coups de Sherwood.
Oui, oui, oui. Du hockey comme dans le temps. L'expression oui. Part probablement, entre autres, de cette série-là. Hey, merci beaucoup, Luc. Toujours très intéressant. Bonnes vacances. On se reparle dans quelques semaines.
Absolument.
Merci.
Bonnes vacances à tout le monde.
Bye-bye.